Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Orayot, page 6, Daf Vav. Bonne écoute et bon limoud.
L'expiatoire ne sera pas mangé. Kayot c'est beau. La même façon d'étudier, nous avons vu ailleurs. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous a dit. Ceux qui sont venus de l'exil ont sacrifié des holocaustes au Dieu d'Israël, Parim Shnemassar, 12 taureaux. Et là-bas, nous parlons à l'époque d'Ezra, lorsqu'il a reconstruit le deuxième temple. Alors, le verset nous dit que tous ceux qui sont revenus de l'exil ont amené des sacrifices, 12 taureaux, là-bas il est cité plusieurs cas, 12 taureaux et aussi 12 boucs en tant que sacrifice expiatoire. Puis le verset fini nous dit Akolola, tout est un holocauste. La Gemara demande Akolola, c'est le cas d'Artar. Tu peux penser que tout est un holocauste. Et Pshachechatatola, est-ce que tu peux nous dire que les sacrifices qui ont été amenés en tant qu'expiatoire, ce sont des holocaustes? Et là, alors c'est comme ça il faut dire Akolkeola, tout est considéré comme un holocauste. Maola l'onechelet, de même que l'holocauste, on n'a pas le droit de la manger. Afratat l'onechelet, de même, ces sacrifices expiatoires, on n'a pas le droit de les manger. Détania, car nous avons appris, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, al avodat kochavim evium. Ces sacrifices expiatoires ont été amenés sur la faute d'idolâtrie. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, al avodat kochavim j'asur bimet Tzidkiyahu. Ils ont été amenés, ces sacrifices expiatoires ont été amenés sur la faute d'idolâtrie qu'ils ont fauté à l'époque de Tzidkiyahu, c'est-à-dire à la fin du premier temple. Donc au début du second temple, ils ont amené un sacrifice expiatoire sur la faute d'idolâtrie qu'ils ont fauté à la fin du premier temple, c'est-à-dire à peu près 70 ans avant. Alors Agma demande maintenant, Mbish la malé Rabbi Yehuda. Je peux comprendre d'après Rabbi Yehuda, Majkarat Leoule Aneshnema Sachata, je peux comprendre pourquoi ils ont amené 12 expiatoires, 12 sacrifices expiatoires, que Ganchechato Shnema Sachfatim, comme par exemple dans un cas où c'est les 12 tribus qui ont fauté. Donc on devrait amener un sacrifice pour chaque tribu, des Maïto Shnema Sachseirim, où on doit amener 12 boucs. Inami, ou alors une autre possibilité, des Chatou Shiva Shfatim, que dans un cas où 7 tribus ont fauté. Veshara Einar Begreira, et les autres tribus doivent amener par à cause de ces tribus qui ont fauté. Comme nous avons vu, ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda plus haut. Ou les Rabbi Shimon, Nami, Mashkarada, et même d'après Rabbi Shimon, je peux comprendre pourquoi ils ont amené 12 sacrifices, qui est Gandhi, Khatou, Akhada, Sarshadim, dans un cas où 11 tribus ont fauté. Des Maïto, Akhada, Sarserim, alors ces 11 tribus, chacun devra amener un bouc. Veidach est le 12e, des Bedin, c'est le tribunal qui l'amène. Et là, les Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, de Amar qui a dit, Bedin Mevim Velotzibou, que c'est seulement le tribunal qui amène, mais pas l'assemblée. Alors, Shnemasarechimashkachatla, comment pouvons-nous trouver un cas où ils ont amené 12 sacrifices? Pour quelles raisons ont-ils besoin d'amener 12 sacrifices? Alors, il suffit très bien qu'ils amènent un seul sacrifice. Alors, nous dit, Kegondachatou, comme par exemple dans un cas où ils ont fauté, Veadachatou, puis après ils ont à nouveau fauté, Veadachatou, puis après ils ont à nouveau fauté. C'est-à-dire qu'il y a eu un enseignement, une décision qui a été rendue par le tribunal, ils ont fauté, puis à nouveau une nouvelle décision, puis à nouveau une nouvelle décision, etc. À Tristar Zimne, jusqu'à 12 fois. L'Agma demande, alors, mais comment ont-ils pu amener ces sacrifices au début du second temple? Ve'ama et Elewan ou Dechatou. Ceux qui ont fauté, c'est-à-dire ceux qui étaient à la fin du premier temple et qui ont fauté, sont déjà morts. Alors, Amara. Et donc, on n'amène pas un sacrifice sur quelqu'un qui est mort. Amar Rav Papa nous dit Kigmir et Chatat Shemetu Balea Bemita. Lorsque nous avons appris cette loi que un Chatat, un sacrifice expiatoire, lorsque le propriétaire d'un sacrifice expiatoire est décédé, alors on devra la laisser mourir. Cette loi n'est applicable seulement dans un cas d'un particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui amène un sacrifice sur sa faute. Valo Betibour, mais pas dans le cas d'un sacrifice public, c'est-à-dire qu'il vient pour pardonner à toute l'assemblée. Les fiches et Mita Betibour, car cette loi-là d'un expiatoire qui est mort ne s'applique pas dans le cas du public. Agma demande, Minal et les Rav Papa. D'où Rav Papa a-t-il appris cela? que cette loi d'un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort ne s'applique pas dans les sacrifices pour qui viennent pour, sur l'assemblée. Il est madirtif, si c'est parce que c'est écrit Tachatavotecha Yubanecha, à la place de tes pères, il y aura tes fils, Yachiafilubéachinami. Alors c'est ainsi, même si un particulier est décédé, alors malgré cela, on pourra quand même amener son sacrifice. Et la doukia de Rav Papa, Misir de Rosh Chodesh. Alors nous disons ce que Rav Papa l'a pris, c'est du bouc que nous amenons à Rosh Chodesh. De Amarachmana, par la Torah a dit, Maite mitrumat alishka. Ils viendront des dons qui ont été donnés à l'Eleshka, c'est-à-dire dans une chambre spéciale où on gardait l'argent qu'on prenait pour les sacrifices. Donc, qui est, bien sûr, cette chambre était une des chambres du Beth Amikdash, du temple. Donc maintenant, nous voyons que chacun a donné de l'argent au début de l'année pour amener ses boucs de Rosh Chodesh, qu'on amenait chaque Rosh Chodesh, chaque début de mois. Et Ve'ama et Eléum Israël, peut-être qu'il y a des béné Israël qui sont morts en attendant, c'est-à-dire qu'on amène ce sacrifice, c'est-à-dire que quelqu'un a donné de l'argent pour ce bouc, comme tout le monde doit donner, puis après il est mort, il est décédé. Alors maintenant, lorsqu'on va amener ce bouc, le propriétaire de ce bouc, entre guillemets le propriétaire, enfin celui qui a donné un petit peu d'argent pour ce bouc, est déjà décédé. Et donc ceux qui restent, comment peuvent-ils amener le bouc? Donc de là j'apprends, un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont décédés, quand c'est un sacrifice expiatoire qui vient pour le public, on peut quand même l'amener au temple et le sacrifier. C'est-à-dire qu'en fait, puisque nous voyons ici que malgré que nous disons que les propriétaires de ce sacrifice, ceux qui ont donné de l'argent pour amener ce bouc de Rosh Chodesh, sont peut-être décédés, malgré cela, on peut quand même prendre ce bouc et le sacrifier. Donc de là, je l'apprends. Alors, ma demande, Midame, est-ce que cela ressemble? C'est Rosh Chodesh, le bouc que l'on amène à Rosh Chodesh, Dilma Lomaitu. Mais c'est beau. Peut-être qu'une partie, cette partie, il n'y a personne de l'assemblée qui est mort. Avalach, mais ici dans notre cas à nous, Vadaimaitu, c'est sûr qu'une partie de l'assemblée qui veut se faire pardonner de cette faute est déjà morte. Alors elle attend de Rav Papa, alors la raison de Rav Papa, mais Acha, c'est d'ici, car il écrit, Kaper l'Amcha Israël, Asher Padita Hashem, pardonne à ton peuple Israël que tu as racheté Hashem. C'est-à-dire, et là-bas nous parlons, c'est le verset qui se rapporte dans Egla Arufa, c'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit que lorsque un mort a été trouvé entre deux villes et on ne sait pas c'est qui l'a tué, alors le tribunal de la ville la plus proche doit sortir vers le ruisseau qui est à côté de la ville en prenant une jeune génisse et lui casser la nuque à cette jeune génisse et dire certains versets. Et un de ces versets, c'est « Pardonne à ton peuple Israël », etc., ce verset que nous avons cité. En fait, la raison pour laquelle le tribunal sort, etc., c'est que nous disons, entre guillemets, que la faute pour laquelle cette personne est décédée, est morte, en fait a été assassinée, nous parlons dans un cas où elle est assassinée, c'est par la faute de cette ville. Car si cette ville l'avait acceptée parmi eux, elle lui aurait donné à manger et elle aurait trouvé un endroit où dormir, il ne serait pas perdu en dehors de la ville, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et il ne lui serait rien arrivé. Donc en fait, ça vient pardonner cette faute que la ville n'a pas offert l'hospitalité à cette personne. Alors maintenant, là-bas, nous disons, Kaper l'Amcha Israël, Asher Palita Hashem. Pardonne à ton peuple Israël que Hashem tu as racheté. Et nous apprenons de là, Reuya Kaparazo, Shete Chaper al Yotzei Mitzrayim. Ce pardon-là, cette façon de se faire pardonner, elle est apte aussi à pardonner à ceux qui sont sortis d'Égypte. Midekati, puisqu'il écrit Asher Padita Hashem, que tu as racheté. C'est qui Hashem il a racheté? C'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc nous voyons de là-bas, explicitement, que ce pardon que nous faisons à Eglar, enfin, lorsque il casse la nuque de cette jeune génisse, ça pardonne aussi à Yotzei Mitzrayim, à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et donc là-bas, c'est sûr qu'ils sont déjà morts. Donc nous voyons ici explicitement que nous pouvons pardonner sur quelqu'un qui est déjà mort. Alors, ma demande, mesdames, est-ce que cela ressemble? Là-bas, tout le monde y est. Migo de Mecha Prachaim. Et donc, puisque ça pardonne aux vivants, michapranam et ametim, ça pardonne aussi aux morts. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fauté, ils sont encore vivants. Tous ceux de la ville, ils sont encore vivants et ils viennent là-bas avec le tribunal. Et donc nous voyons que puisqu'ils veulent se faire pardonner avec ce tribunal qui est sorti et a amené cette églaroufa. Aval elaacha, mais ici, miavuchaim, est-ce que ceux qui ont fauté étaient encore vivants pour que nous puissions dire que puisque ça pardonne aux vivants, alors ça pardonne aussi aux morts? En effet, il y restait encore des vivants. Dirtif, car il est dit à propos de lorsque Ezra a ramené une partie de l'exil, ils ont amené des corbanotes, des sacrifices au second temple au début. Verabim, akohanim, valevim, verashé, avot. Et une bonne partie des kohanim et des levim et des chefs des maisons, des pères. Et donc nous voyons ici qu'ici il restait encore des gens du premier temple. Alors on me demande, Dilma Moatim, peut-être qu'en fait ce n'était qu'une minorité. Alors, Velo Rabbi, oui, il n'était pas une minorité. On dit active, non, là il est déjà écrit. Trois Tassimcha, l'école Bechiam. Il y avait là-bas trois Tassimcha des bruits de joie, l'école Bechiam, et les voix du peuple qui pleure. Véakol Nishma Nemir, on entendait la voix de loin. Et en fait, il est écrit là-bas dans le verset qu'on ne reconnaissait pas est-ce que c'était des voix de pleurs ou des voix de joie. C'est-à-dire qu'il y avait des voix de joie de ceux qui voyaient le second temple qui était en train de se faire reconstruire, mais il y avait ceux qui restaient du premier temple et qui se rappelaient du premier temple qui a été détruit, qui pleuraient. Et puisque nous voyons que nous, on ne reconnaissait pas la voix de ceux qui pleurent ou la voix de ceux qui étaient contents, hein. Donc vous voyez que ceux qui pleurent étaient aussi en nombre important. Donc puisqu'ils étaient en nombre important, alors ils pouvaient amener un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner. Puisque ça leur pardonnait à eux, alors ça pardonnait aussi à ceux qui étaient déjà morts. La Gemara demande vers Amézinin à vous. Comment peuvent-ils amener un sacrifice expiatoire lorsqu'ils ont transgressé cette faute d'idolâtrie? Ils l'ont transgressé exprès. La Gemara nous répond Orachaita. C'était un décret temporaire, c'est-à-dire que c'était juste à cette époque-là où il a été permis d'amener un sacrifice expiatoire sur une faute qui a été transgressée exprès. Rabbanu nous dit, Achanami Mistabra, ça aussi c'est logique. Dilo te mari, car si tu ne dis pas comme ça, Elin te shimvisha, ils ont amené 96 béliers, Kevasim shivimvesheva, et 77 agneaux, Kenegedmi. Pour quelle raison les ont-ils amenés? Alors c'est sûr que c'était un décret temporaire pour ce moment-là. Alors de même que ces 96 béliers et ces 77 agneaux, c'était Oracha, c'était un décret de l'époque. Alors de même, ces 12 sacrifices expiatoires, Oracha Aïta, c'était un décret temporaire juste pour le moment. Il a été dit qu'on pourra amener un sacrifice expiatoire sur une faute qui a été transgressée exprès. Tanu Rabbanan, nous avons appris. Met echad minatsibou, si un des membres de l'assemblée, une des personnes de l'assemblée qui a fauté, est décédé, chavim, malgré cela, on sera quand même passible d'amener un sacrifice. Echad mi bedin, mais si c'est un des membres du tribunal qui est décédé, ptourim, dans un cas pareil, on sera exempt d'amener un sacrifice. Alors, on va demander Mantana, c'est qui le Tana qui pense comme ça? Amar Rav Frisda nous dit Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Yirmiya, Amar Rav, qui a dit au nom de Rav Zira, qui a dit au nom de Rabbi Yirmiya, qui a dit au nom de Rav, Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, de Amar, Bedin Mevim, Velo Tzibur, que dans un cas où la majorité du peuple a fauté en se reposant sur le dire du tribunal, c'est le tribunal qui devra amener et non pas l'assemblée. Ilkar, et donc c'est pour cela, Met Echad Minat Tzibur, Chayavim. Si un des membres de l'assemblée est décédé, on sera quand même passible de sacrifice. Le tribunal sera quand même passible de sacrifice. Dea, kaim koule beddin, car tout le tribunal, ils sont tous encore vivants, donc tous doivent être pardonnés, et donc ils devront amener un sacrifice. Met echad mi beddin, mais si un du membre du tribunal est décédé, ptorim, dans un cas pareil, ils seront exempts. Dea viala khatat shemet echad mina shutafim, car c'est considéré comme étant un sacrifice expiatoire dont l'un des propriétaires, et il y avait plusieurs propriétaires qui étaient associés, qui devaient amener ce sacrifice expiatoire, et un des propriétaires est décédé, ou Mishomachi Pturim. Et donc c'est pour cela que dans un cas pareil, on sera exempt. Donc en fait, nous voyons qu'ici, d'après Rabbi Meir pense, lorsqu'un des propriétaires, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires sur un sacrifice expiatoire, donc si un des propriétaires est décédé, on n'amènera pas ce sacrifice. Matkifla Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef demande, Benukma Kerab Shimon, pourquoi nous ne pouvons pas dire que cela va d'après Rabbi Shimon, Dehamar, qui a dit, Bedin imatibur, que le tribunal doit amener avec l'assemblée. Et donc, c'est-à-dire pas seulement l'assemblée, mais aussi le tribunal devront amener un sacrifice. Alors, Metechad minatibur, Chayavim, si un des membres de l'assemblée est décédé, on sera quand même passible de sacrifice. Car nous avons dit que, comme nous avons expliqué plus haut, que la loi, que si un des propriétaires du sacrifice, si le propriétaire du sacrifice expiatoire est décédé, alors on laissera le sacrifice mourir, ne s'applique pas dans le cas où les propriétaires de ce sacrifice, c'est l'assemblée, c'est le public. Mais si un des membres du tribunal est décédé, Ptorim, dans un cas pareil, ils seront exempts de sacrifice, Kedamrinan, comme nous avons expliqué plus haut, Dechatachutizini, car c'est considéré comme étant un sacrifice expiatoire qui vient pour plusieurs associés, et si un des associés est décédé, alors on ne pourra pas amener ce sacrifice expiatoire. Amarle Abaye, et Abaye lui a répondu, pour quelle raison nous ne pouvons pas dire que c'est Rabbi Shimon? Shamin alele Rabbi Shimon, parce que nous avons vu que Rabbi Shimon pense, Dehamar qui a dit, Khatat shutafim enameta. Le sacrifice des associés, mais si un des associés est décédé, enameta, on ne la laissera pas mourir, mais on la sacrifiera. Détania, parce que nous avons appris, par Vesair Shelium Akipurim. Le taureau est le bouc que l'on amène le jour de Kippour, chez Abdou, qui ont été perdus. Donc, c'est-à-dire, ils ont prélevé un taureau et un bouc pour les amener en sacrifice le jour de Kippour, et ce taureau et ce bouc ont été perdus. Et donc, il a pris un autre taureau et un autre bouc à la place de ce taureau et de ce bouc qui ont été pris la première fois. Agma nous dit, Yamutu Kulan. On les laissera tous mourir. Et en fait, ici, l'intention, c'est si les deux, après, en fait, ici, donc il y a ici, en fait, deux taureaux et deux boucs. Alors, si le second taureau et le second bouc ont été sacrifiés le jour de Kippour, et puis après, le premier taureau et le premier bouc a été retrouvé, alors là, nous, d'ivrer Rabbi Yehuda nous dit que ce taureau et ce bouc, on devra les laisser mourir. Par contre, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, on les laissera paître. Les fiches et un chatat tzibur meta, car un expiatoire qui vient pour le public, on ne le laisse pas mourir. Et donc, en fait, nous voyons ici explicitement que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais surtout Rabbi Shimon, nous disent que dans ce cas-là, on ne laissera pas mourir le par chatat qui était amené le jour de Kippour, le taureau expiatoire qui était amené le jour de Kippour. Maintenant, il faut savoir que ce taureau expiatoire est apparemment considéré comme étant un taureau expiatoire de plusieurs associés, car ce taureau venait ici expier les fautes de Aaron et tous ses frères les Kohanim. Donc ce n'est pas considéré comme étant un sacrifice expiatoire de l'assemblée, mais un sacrifice expiatoire de tous les associés. Et donc nous voyons ici explicitement que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon pensent que on ne laissera pas mourir le sacrifice expiatoire des associés. Et donc de même qu'à Yom Kippour, on ne le laissera pas mourir. Dans le cas de Yom Kippour, on ne le laissera pas mourir. Alors de même, dans notre cas, nous, où un des membres du tribunal est décédé, on ne le laissera pas mourir. Alors, Amar le Rav Yosef, Rabbi Yosef lui dit, Kohanim Kamar, toi tu veux m'amener une preuve des Kohanim que Rabbi Shimon pense que le sacrifice expiatoire des associés, on ne le laisse pas mourir. Shane Kohanim dit Krukal, tu ne peux pas amener une preuve des Kohanim parce que c'est différent, car ils sont appelés une assemblée. Dirtiv, comme il est dit, à la Kohanim, Veal Kol Amakal Yechaper, il pardonnera sur les Kohanim et sur tout le peuple de l'assemblée. Donc nous voyons ici que les Kohanim sont appelés une assemblée. Et donc, puisqu'ils sont appelés une assemblée, alors l'expiatoire qu'ils amènent, ça ne s'appelle pas un expiatoire des associés, mais ça s'appelle un expiatoire de l'assemblée. Et ça, nous avons déjà dit plus haut que En Mita Betzibur, dans un cas où on amène un expiatoire pour une assemblée, alors dans un cas pareil, il n'y a pas les lois. Que si un des propriétaires est décédé, on laissera mourir le sacrifice, ne s'applique pas. Et nous passons à Amoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et la Meata, alors la Gemara demande, alors si c'est ainsi, Neitu par Beora, que les Kohanim amènent un sacrifice s'ils ont fauté en se reposant sur les dires du tribunal, puisqu'ils sont appelés en eux-mêmes une assemblée. Donc si la majorité des Kohanim a fauté en se reposant sur les dires du tribunal, ils devraient amener un taureau. Vérité ma renami, ici tu me dis en effet, tfele ou shvatim. Alors à ce moment-là, il y a des tribus en plus. C'est-à-dire, à part les 12 tribus que nous connaissons, Reuven, Shimon, Lévi, etc., il y a une autre tribu, celle des Kohanim. Et donc à ce moment-là, c'est possible d'amener, d'après Rabbi Shimon, 14 sacrifices. 13 pour toutes les tribus et un pour le tribunal. Ils ont vu que dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous a dit que 13 sacrifices. 12 pour les tribus et un pour le tribunal. Et là, Amar Ravacha, Rabbi Yaakov. Alors Ravacha, fils de Rabbi Yaakov, a dit, Shifto chez Lévi, loikokal. La tribu de Lévi n'est pas appelée une assemblée. Dirtif, comme il est dit, Inini mafricha virbeticha untaticha likalamim. Et je te ferai croître et fructifier. Et je te donnerai une assemblée de peuple. Et puis après, dans la continuation de ce verset, il est dit, Venatati et haaretz azot lezaracha acharecha, et je donnerai cette terre à ta descendance après toi, achuzat olam, comme possession perpétuelle. Et donc nous apprenons de là, kol sheyesh lo achuza, chacun qui a une possession, ykrekal, est appelé une assemblée. Vechol sheyen lo achuza, et chaque personne qui n'a pas de possession, c'est-à-dire qui n'a pas de possession en terre d'Israël, lo ykrekal n'est pas appelé à assembler. Et nous avons bien sûr appris, c'est une chose connue, que la tribu de Lévi n'avait pas de possession en terre d'Israël, c'est-à-dire elle n'avait pas de terre. La terre d'Israël a été partagée en 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, etc. Lévi n'a pas reçu, donc ça fait apparemment que 11 tribus, mais à la place de Lévi, Yosef a reçu deux parts. Ménaché et Ephraim, chacun ont reçu une part. La Gemara demande, c'est ce que la Gemara demande maintenant. Imken chasre le Yud Bet Shvatim. Alors, c'est ainsi, il n'y a pas 12 tribus, il n'y a que 11 tribus. Car Lévi n'est pas appelé une assemblée. Amar Abaye, alors Abaye nous dit, Ephraim, Menaché, Kérouven, Veshimon, Yuli. Nous avons il s'est écrit dans les versets que Ephraim et Menaché, c'est Yaakov qui dit, Ephraim et Menaché seront pour moi comme Reuven et Shimon. Donc, nous apprenons de là que Ephraim et Menaché, qui sont les fils de Yosef, chacun est considéré comme étant une tribu. Rava demande, Amar Rava, va'aktiv al shem achem ikreu benachalatam. Mais Rava nous dit, nous avons appris que, au nom, comme le nom de leurs frères, ils seront appelés sur leur possession. Et nous avons appris les nachala okshu, velo le davar acher. Ils ont été appelés une tribu juste pour ces lois-là de la possession, c'est-à-dire d'avoir une possession en terre d'Israël, velo le davar acher, mais pas pour une autre chose. C'est-à-dire que pour toutes les autres choses, ils étaient considérés comme étant une seule tribu. La Gemara demande vélo. Ah bon, pour toutes les autres choses, ils étaient considérés comme étant une seule tribu. Parce que nous avons vu que lorsqu'ils marchaient dans le désert, après la sortie d'Égypte, ils étaient 40 ans dans le désert. Alors, là-bas, ils marchaient chacun suivant, chaque personne marchait dans son propre camp et dans sa propre tribu. Et maintenant, au-dessus de chaque tribu, il y avait un drapeau. Et nous voyons que Ephraim et Ménaché, chacun avait un drapeau. Donc nous voyons que Ephraim et Ménaché sont considérés comme étant deux tribus complètement à part, du fait que nous voyons que chacun avait un drapeau différent. Alors Gemara nous dit non, que Nachalatan, Kachnachanayatan. Comme ils avaient leur possession en terre d'Israël, c'est ainsi que se divisait leur façon de marcher et leur façon de marcher avec les drapeaux, kedel echalek kavod et degalim, pour donner de l'honneur au drapeau. La Gemara demande, vachalukim benesim. Ah bon, alors pour les degalim, tu as donné une explication, parce que c'était de même que dans les possessions, ils étaient séparés, alors de même dans les degalim, dans les drapeaux aussi, ils étaient séparés, etc. Mais nous voyons qu'ils avaient un nasi, une chef de tribu différente. C'est-à-dire, il y avait deux chefs de tribu, un pour Ephraim et un pour Ménaché, donc c'est considéré comme étant deux tribus différentes. Alors, Gemara répond non. Ça, c'est pour donner de l'honneur au Nessim, au chef de tribu de Tania, parce que nous avons appris dans une braïta. Shlomo asa sheva yeme chanuka. Lorsque Shlomo a inauguré le premier temple, il a fait 7 jours d'inauguration. Umara Moshe lasot shneim asar yeme chanuka. Alors, pour quelle raison Moshe a fait 12 jours d'inauguration? Pour donner de l'honneur au chef de tribu. Et chaque jour, il y avait un chef de tribu différent qui venait et qui apportait son sacrifice. Donc en fait, toute la raison maintenant pour laquelle nous avons ramené cela, c'est parce que nous avons dit au début que les Kohanim sont appelés une assemblée à part. Et donc nous n'avons pas pu ramener de preuves du sacrifice expiatoire des Kohanim qui a été perdu le jour de Kippour, où il est dit que il ne sera pas, on ne le laissera pas mourir, car c'est un sacrifice qui vient pour une assemblée. Mais un sacrifice expiatoire des associés, il n'y a pas de preuves. Peut-être on le laissera mourir, peut-être on ne le laissera pas mourir. Et donc, la question est restée suspendue d'après Rabbi Shimon. Alors la Gemara demande, Maya Vale, qu'en sera-t-il de cette loi-là? Est-ce que lorsque le sacrifice expiatoire des associés, lorsqu'un des associés est décédé, est-ce qu'on le laissera mourir ou pas? Tashma, la Gemara nous dit, viens écoute. De Tanya, nous avons pris dans une braïta. Rabbi Shimon nous dit, Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 sortes de sacrifices expiatoires qu'on laissera mourir. Et les voici. Vlada Chatat, le petit du sacrifice expiatoire, lorsque quelqu'un a pris une bête pour qu'elle soit son sacrifice expiatoire, et cette bête a mis bas. Donc en fait, le petit de ce sacrifice expiatoire, en fait, puisque cette bête a déjà été prise pour être sacrifiée, donc elle est déjà considérée comme étant sainte. Donc le petit qui naît est considéré comme étant saint, mais d'un autre côté, ce n'est pas un expiatoire. Alors lui, on le laissera mourir. Utmurat achatat, un sacrifice expiatoire qui a été changé. Alors, il y a une loi qui nous dit que cela interdit de le faire. Et dans un cas pareil, alors, on doit amener l'original, c'est-à-dire le premier sacrifice, on devra le sacrifier, et le second, on le laissera mourir. Vechatat shemetu baalea, et le sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé. Vechatat shenitkapru baalea, et le sacrifice expiatoire dont le propriétaire a déjà été pardonné. Comme si par exemple quelqu'un a pris un sacrifice expiatoire, puis après il a perdu, alors il a pris une autre bête pour amener son sacrifice, il a amené son sacrifice, donc il a été pardonné, puis après il a retrouvé la première bête. Dans un cas pareil, on laissera mourir la première bête. Vechatat shavrashnata, ou un sacrifice expiatoire qui a été pris pour être amené au temple pour être sacrifié, et un an est passé sans que cette bête n'ait été sacrifiée. Alors dans un cas pareil, on la laissera mourir. Et maintenant, nous, Rabbi Shimon vient et rajoute, Vei atayachol omar vlad chatat betibou. Et le cas de vlad achatat du petit, du sacrifice expiatoire, n'existe pas lorsque c'est un sacrifice qui vient de la part de l'assemblée. Shen tibou mafrishi nekeva. Car l'assemblée, lorsqu'il amène un sacrifice expiatoire, il n'amène pas une femelle, seulement un taureau. Et donc ce n'est pas possible d'avoir un petit de la bête. Et aussi le cas du sacrifice expiatoire qui a été changé n'existe pas lorsque c'est l'assemblée qui amène un sacrifice. Car lorsqu'on amène un sacrifice expiatoire de la part de toute l'assemblée, on ne peut pas l'échanger. Même si on dit, voilà, j'échange, je prends à la place de ce taureau un autre taureau, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le second taureau n'est pas considéré comme étant un sacrifice expiatoire. Et on ne peut pas dire aussi le cas de Khatat Shemetu Baalea, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé, dans le cas où c'est l'assemblée qui amène un sacrifice. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu la règle plus haut, She'en Tzibur Metim, que cette règle-là du sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé, on laissera mourir, ne s'applique pas dans un cas où c'est l'assemblée qui amène. Maintenant, She'nit Kapru Baalea, le cas de Shenit Kapru Baalea, où le sacrifice expiatoire dont le propriétaire s'est déjà fait pardonner, mais chez Avrashnata, où le sacrifice expiatoire qui a passé l'année, Loshamanu, on n'a pas entendu, est-ce que ces cas-là peuvent exister dans le public ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr qu'ils peuvent exister, mais quelle est leur loi dans un cas pareil? Est-ce que nous disons qu'on les laissera mourir ou pas? C'est-à-dire, nous avons vu 5 cas qui existe dans le cas particulier qui a amené le sacrifice. Dans ces 5 cas, nous avons dit, on laissera mourir le sacrifice. Maintenant, et après, parmi ces 5 cas, il y a encore 3 cas où on veut savoir que si c'est le public, qu'ils sont passés dans le public, alors quelle est la loi? La Gemara nous dit que ces 3 cas ne peuvent pas arriver dans le public. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que ça arrive. Maintenant, il existe maintenant encore 2 cas où, si ça avait été un particulier qui l'aurait amené ce sacrifice, alors on l'aurait laissé mourir. Mais si c'est le public qui l'amène, alors on ne connaît pas la loi. Alors, Yachol et Yamutu, j'aurais pu penser alors que peut-être on les laisse mourir. Alors, Amar Dilma, Tzatum Minam Mefourash, on apprend les choses claires des choses qui ne sont pas claires. C'est-à-dire, Le contraire, les choses pas claires, les choses qui ne sont pas expliquées, des choses qui sont explicites, qui sont claires. Ma matzinu bevlat chatat vetmurat chatat veshemetu ba'alea beyachid dvarim amurim velo betzivum. De même que lorsque nous avons parlé que le petit du sacrifice expiatoire ou le sacrifice expiatoire qui a été changé ou le sacrifice expiatoire dont le propriétaire a déjà été pardonné, tout ce que nous avons dit qu'on les laissera mourir, c'est seulement dans un cas d'un particulier, mais pas dans un cas où c'est l'Assemblée qui a amené un sacrifice. Et tout simplement parce que ces cas-là ne peuvent pas arriver si c'est l'Assemblée qui a amené un sacrifice. Alors même les deux autres cas qui nous restent, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire dont le propriétaire a déjà été pardonné ou qui a passé l'année, on parle seulement d'un cas d'un particulier, seulement si c'est un particulier qui s'est amené, on les laissera mourir, mais pas si c'est le public. Alors Gemara demande, peut-on apprendre un cas où il y a une autre possibilité d'un cas où il n'y a pas une autre possibilité? C'est-à-dire, les trois premiers cas qui ont été cités dans la Gemara, ce sont trois cas où il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire, ce n'est que des cas qui ne peuvent pas exister dans un tibour, dans le cas où c'est le public ou l'assemblée qui amène un sacrifice. Donc, puisque ces cas ne peuvent pas exister, c'est sûr qu'on ne laissera pas mourir, puisque ces cas ne peuvent pas exister. Alors, peut-on apprendre le cas où il existe une autre possibilité? Par exemple, les deux derniers cas où il existe une autre possibilité, c'est-à-dire puisque ce sont des cas qui peuvent arriver, par exemple un tibour et un public qui a, qui a pris un sacrifice expiatoire pour l'amener au temple et le sacrifier, et il a été perdu, alors ils ont pris un autre taureau, puis après ils ont retrouvé le premier taureau. Donc c'est possible de trouver un cas d'un sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont déjà été pardonnés dans le public. Alors, peut-être que dans une chose pareille, on ne peut pas l'apprendre des premiers cas. C'est-à-dire dans les premiers cas, il n'y avait pas d'autre possibilité. Dans les derniers cas, il y a oui une autre possibilité. Alors, comment peut-on apprendre quelque chose où il n'y a pas une autre, quelque chose qui est, où il y a une autre possibilité, d'un cas où il n'y a pas d'autre possibilité? On nous demande, Rabbi Shimon Bechad Makom Gamir. Rabbi Shimon nous dit que lorsque des lois ont été enseignées ensemble, alors on peut, oui, apprendre l'une de l'autre. Et d'après Rabbi Shimon, ces cinq lois ont été enseignées ensemble à l'Achal et Moshe Mistin. C'est-à-dire que Moshe a reçu ces lois-là de Akadosh Baruch Hu au Sinaï, et il a reçu ces cinq lois ensemble. Et donc, puisque ces cinq lois ont été enseignées ensemble, alors dans un cas pareil d'après Rabbi Shimon, on peut, oui, apprendre Efshar Meshi Efshar, un cas où il y a une autre possibilité d'un cas où il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc maintenant, ce que nous pouvons apprendre de cette braïta, c'est que Rabbi Shimon a dit que toutes ces lois d'un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est décédé, on laissera mourir le sacrifice, c'est seulement dans un cas de Yachid Velo Betibour, un cas d'un particulier, mais pas dans le cas où c'est l'Assemblée qui amène un sacrifice. Et nous apprenons de là aussi, Yachid Velo Shutvin, seulement le cas d'un particulier, parce que Rabbi Shimon nous dit, c'est seulement le particulier. Donc, de même que c'est seulement le particulier et pas l'Assemblée, c'est aussi seulement le particulier et pas les associés. Donc maintenant, si des associés ont pris un sacrifice expiatoire pour l'amener au temple, puis un des associés est décédé, et, dans un cas pareil, nous ne disons pas que Yamut, qu'on le laissera mourir, mais on pourra quand même l'amener. Et donc, puisque c'est ainsi, alors la braïta que nous avons vue plus haut, où il est dit que si un des membres du tribunal est décédé, on ne pourra pas amener le sacrifice, cela ne peut pas être d'après Rabbi Shimon. Car Rabbi Shimon nous a dit que même si un des associés est décédé, on amènera ce sacrifice et on ne le laissera pas mourir. Adran alach oru bedin, adran alach oru bedin, adran alach oru bedin. Nous reviendrons vers toi, le chapitre, les décisions qui ont été rendues par le tribunal. Nous allons commencer par Ezrat Hashem maintenant, le second chapitre de Maseret Orayot. Et comme nous l'avons cité dans l'introduction au début de la Maseret, nous avons vu qu'il y a trois cas qui devront amener un sacrifice lorsqu'ils ont fauté, mais qui ne devront pas amener un sacrifice comme un particulier qui a fauté. Le premier cas nous avons vu, c'est le cas où la majorité de l'Assemblée a fauté, et c'est ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, quand ils ont fauté en se reposant sur des tribunaux. Il existe deux autres cas par cela. Le cas du Kohen Mashiach, du Kohen qui a été oint, c'est-à-dire le grand prêtre. Et il existe le deuxième cas, c'est du Nasi, c'est-à-dire du roi. Maintenant, ce chapitre va nous parler des lois et les explications du Kohen Mashiach, du Kohen qui a été moins, et du Nasi, du roi qui ont fauté. Dans quel cas ils devront amener un sacrifice spécial, dans quel cas ils ne devront pas amener un sacrifice spécial, etc. Agma maintenant vient et nous dit, la Mishnah vient et nous dit, Ora Kohen Mashiach Latzmo. Si le Kohen Mashiach, le Kohen qui a été loin, c'est-à-dire le grand prêtre, a enseigné pour lui-même, s'est rendu une décision à lui-même, en disant qu'une chose qui était normalement interdite, lui il pensait qu'elle était permise. Shogeg, sans faire exprès. Ve'asa Shogeg. Et donc il a transgressé cet interdit en se reposant sur cette décision sans faire exprès, mais vit pas. Alors à ce moment-là, il devra amener un taureau, mais il ne devra pas amener un sacrifice, et non pas un sacrifice expiatoire, comme n'importe quel autre particulier qui a fauté. Mais s'il a rendu une décision shogeg, ve'asa mezid, et il a transgressé cet interdit exprès, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, il a transgressé l'interdit, il a oublié que lui, il avait rendu une décision que cette chose était permise, et il pensait que c'était interdit, et malgré cela, il a transgressé cet interdit. Ou alors, dans un cas où il a mézid, il a rendu une décision mézid, c'est-à-dire il a fait exprès, il savait très bien que cette décision était fausse, et malgré cela, il a rendu cette décision. Et lorsqu'il a transgressé cet interdit, il a transgressé sans faire exprès. Comme, par exemple, dans un cas où lui il a dit Khelev, les graisses interdites sont permises. Il savait qu'il se trompait. Puis après il a mangé un bout de graisse devant lui et il croyait que c'était des graisses permises. Puis après il savait que c'était des graisses interdites. Donc en fait ici il a transgressé cet interdit sans faire exprès, mais pas en se reposant sur sa décision. Alors Patour, dans un cas pareil, il sera exempt complètement de sacrifice. Sheorat Kohen Mashiach Latzmo Keorat Bedin Letzibur. Car la décision qui a été rendue par le Kohen Mashiach, le Kohen qui a été le grand prêtre, pour lui-même, c'est comme les décisions qui ont été rendues par le tribunal pour l'assemblée. Et de même que si l'assemblée, lorsqu'elle veut, elle pourrait être passible de sacrifice, il faut qu'il y ait une décision qui a été rendue par le tribunal sans faire exprès, c'est-à-dire que le tribunal ne savait pas que cette décision était fausse et que la majorité de l'assemblée a fauté en se reposant sur cette décision. De même, lorsque le grand prêtre a fauté pour amener un sacrifice spécial, il faut qu'il ait rendu une décision, et sans faire exprès bien sûr, une fausse décision sans faire exprès, et que lorsqu'il ait fauté, il se repose sur cette décision. La Gemara demande maintenant, Shogeg ve'asa Shogeg mevipa. Nous avons cité dans la Mishnah d'un cas où il a rendu une décision sans faire exprès, puis après il a transgressé et s'est interdit en se reposant sur cette décision, il devra amener un par un taureau. Pshita. C'est évident. Alors Amar Abaye, Abaye nous dit, « Ah, Rabbe Maeskinan, ici de quelqu'un nous parlons, « Kegon Sheora, lui, il a rendu une décision, « Veshachar Meezet Amora, et il a oublié pour quelle raison il a rendu cette décision, « Ou Beshahasheta, et au moment où il s'est trompé et il a transgressé cet interdit, Amar, il a dit, « Areni Ose Alda Torahati, je transgresse cet interdit en me reposant sur les dires que j'ai dit. » Des ma ou des témas, j'aurais pu penser dire qu'Evan de Ilumitiad allait. S'il avait su pour quelle raison il a rendu cette décision chez Madarbe, peut-être il serait revenu sur ses dires. Alors qu'Emezidame. Alors maintenant, lorsqu'il a transgressé cet interdit, c'est considéré comme s'il avait transgressé exprès. Velo les Chayev, et donc il ne serait pas passible de sacrifice. Kamashmanan, c'est ça que ça vient nous apprendre, que malgré cela, il est quand même, oui, passible de sacrifice. Car nous disons qu'il a transgressé, c'est-à-dire qu'il s'en fait exprès, en se reposant sur ses dires. Nous commençons, Be'ezrat Hashem, le shiur de Dav Zayin. Nous sommes Davav Amudbet, dernière ligne. La Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Si le Kohen Gadol, le grand prêtre, a rendu une décision, Mézid, pour lui-même, Ve'asa Shogeg, et lui, lorsqu'il a fauté, il ne se reposait pas sur cette décision fausse qu'il a rendue, mais il a fauté sans faire exprès. Comme par exemple, lui il a enseigné que le chélève, les graisses interdites, elles étaient permises, et puis il a mangé un morceau de graisse en pensant que ces graisses étaient des graisses permises, pas des graisses interdites. Dans un cas pareil, il sera exempt de sacrifice. Car nous avons dit que le Kohen ressemble à l'assemblée. Et de même que dans l'assemblée, pour amener un sacrifice, il faut qu'une décision qui est rendue par le tribunal et que la majorité du peuple ait fauté sans faire exprès en se reposant sur la décision. De même, le Kohen, c'est la même chose, il faut qu'il ait rendu une décision, et qu'il ait fauté en se reposant sur cette décision. Donc, ma demande, Mina Némile, d'où apprenons-nous cela, qu'il faut qu'il ait une décision, et qu'il ait fauté en se reposant sur sa décision? de Tano Rabbanan, parce que nous avons appris le Hashmat Ha'am. Il est écrit que le grand prêtre a fauté au détriment du peuple. Et de là, nous voyons Aré Mashiach et Tzibur. Nous apprenons de là que le Mashiach, c'est-à-dire le Kohen qui était loin, le grand prêtre, est juxtaposé à l'assemblée. Et donc, Véalodinou. Et donc, maintenant, c'est un raisonnement.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.